La place au débat, c'est le premier qui pose la question, le premier qui dit quelque chose, il a gagné. Ah, Didier.
Joël, dans l'exposé tout à l'heure, tu disais que l'éducation nationale commençait à prendre en compte certains phénomènes que tu nous as exposés ce soir. Est-ce que tu le dis pour faire plaisir au corps qui te dans les écoles agricoles, on a cette évolution. Deuxième chose, on disait qu'il n'y avait pas de solution, si ce n'est de solution à nos problèmes, si ce n'est que politiquement, des gens s'emparent du problème et proposent des solutions avec nous. Est-ce que tout ce qui est proposé par des maraîchers bio, groupements d'achat, personnes qui s'intéressent à la chose, des jeunes en question, ne font pas partie de cette possibilité de voir les choses autrement que par une décision politique qu'il faut certainement, mais qu'il faudrait attendre si on n'est pas prêt à prendre nous-mêmes le chemin de la politique.
Alors, première question. Dans l'éducation nationale, est-ce qu'on commence à parler de permaculture, d'agroforesterie, tout ça ? C'est très marginal. Alors, les enseignants, pour certains, sont des passionnés quand même de ce qu'ils font, et lisent les bouquins qui sont sur la table, là, ils écoutent du bourguignon parler, ils écoutent Rabi, ils écoutent... Donc plus on étudie, et plus on a envie d'étudier, plus on a envie de connaître des choses. Donc les enseignants, pour la plupart, sont assez... ont envie de faire passer le message. Sauf que le public qu'ils ont en face n'est pas forcément réceptif. Alors, dans les lycées agricoles, par exemple, l'essentiel des enfants qui vont dans les lycées agricoles, s'ils y vont, c'est parce qu'ils sont poussés par une tradition familiale et par une famille. Alors, les choses sont de plus en plus mitigées quand même. Mais bon, quand moi j'étais au lycée agricole, j'ai fait une seconde au lycée agricole, on était sur 30, on était 3 ou 4 à pas être fils d'agriculteur. Et quand le prof est en face d'enfants d'agriculteurs, il va s'opposer à des préjugés, il va s'opposer à des traditions familiales. Ça va être difficile de faire passer certains messages. Où les gamins vont soit le dire, soit le penser très fort. Ouais, bon, le prof, là, il est fonctionnaire, il raconte des trucs, mais mon père, lui, il trime, il sait ce qu'il fait. Et le discours est difficile. Alors, le seul moyen de vraiment être pédagogique, c'est de montrer que ça marche. C'est-à-dire qu'il faut faire. Il faut dire, oui, il faut dire les choses, mais il faut aussi les faire. Donc, dans certains lycées agricoles, ils ont des zones de démonstration où ils disent, ben voilà, on a un truc conventionnel, à côté, on a un truc bio, on va comparer. Et puis, les gamins, bon, on va piquer leur curiosité sans les culpabiliser, sans culpabiliser parents, sans culpabiliser personne. On va dire, voilà, on peut faire autrement, pourquoi pas ? C'est amusant, enfin, on y va par un autre biais que « Ouais, vous êtes des pollueurs ». Le fameux agribashing. Agribashing, ça veut dire on va stigmatiser les agriculteurs, en dire « C'est leur faute, c'est eux les pollueurs, c'est eux ceci, cela ». Ouais, c'est ça. Ouais. Et vous qui allez acheter votre porc à 2 euros le kilo, vous participez à ça. Hein. Si vous n'achetiez pas du porc à 2 euros le kilo en promotion... Eh bien, on n'élèverait pas des porcs en batterie en Bretagne ou ici. Donc, le consommateur est aussi responsable que le producteur, que le vendeur d'engrais, etc. On est tous dedans. Voilà. Donc, le seul moyen que les choses avancent réellement, c'est pas de dire couper le robinet quand vous vous brossez les dents. Ça, c'est culpabilisateur. Parce que quand j'ai entendu ça la première fois, comme tout le monde, je me suis dit, mais pff, n'importe quoi, mais... De quoi il se mêle ? Non, mais franchement. Hein.
Pisser dans la douche.
Oui, pisser dans la douche aussi, ça je le fais. Ouais. Parce qu'après, chez moi, je fais un truc illégal. J'ai la chance d'avoir une citerne sous la maison qui recueillait l'eau de pluie. Et maintenant, elle recueille les eaux grises. Quand je pisse dans la douche, ça tombe dans cette citerne et j'arrose avec cette citerne. Donc elle sent pas très bon l'eau, mais c'est pas quand même de la station des... Enfin, c'est pas... Hein. Bon. Et les plantes profitent de tout ce qu'on peut mettre dans cette bonne eau. Quoi. Voilà. Deuxième question, c'était... tout ce qu'on fait en ce moment, ça participe à l'exemplarité. Et donc, en effet, depuis tant d'années, les politiques nous promettent monts et merveilles, et en même temps, ils font l'inverse. Vous voyez le clin d'œil, en même temps ? C'est un tic de langage qui est très répandu dans les sphères politiciennes. Parce que la politique, est-ce que c'est bon ou mauvais ? Ben, la politique, c'est bon. On fait tous de la politique. Là, on fait de la politique, là, maintenant. Vous faites de la politique en écoutant mon discours et... On fait tous de la politique. La politique, c'est quelque chose d'utile. Par contre, les discours politiciens, c'est du vent. C'est du vent, c'est du rien. Ça entretient une caste, un parasitisme ambiant qui mène à rien, quoi. La preuve. Pourquoi il y a autant d'abstention ? C'est pas que les Français sont si cons que ça. Les gens sont pas cons. C'est pas vrai. On est tous le con de quelqu'un, on est tous cons, ça c'est clair. Mais faut voir quand même que quand il y a justement des problèmes, les gens, la première chose qu'ils font, au lieu de se tirer dessus et de se bouffer les uns les autres, ils se serrent les coudes. Donc, les jeudis en question, tout ce qu'on peut faire qui a un rôle d'exemplarité, de tendre la main aux autres, c'est ça qui est le plus utile. Et depuis plein d'années, tout ce genre d'action, il n'y a que ça qui fonctionne finalement. Et puis quand il y a suffisamment de mouvements et suffisamment de gens qui font les choses, les politiques suivent. Mais les politiques, malheureusement, ne sont pas à l'initiative. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui viennent de la base, quoi, c'est clair. Et les politiques, les politiciens, les professionnels, en fait, ils sentent et ils vont là où ça va leur faire gagner les élections, quoi. Donc si on descend dans la rue et qu'on dit que le pétrole est trop cher, ils vont nous baisser le pétrole et comme ça on pourra rouler en 4x4 un peu plus longtemps. Par contre, si on manifeste pour manger mieux à la cantine ou que nos enfants mangent bio, ils vont mettre du bio à la cantine. Tout dépend de où on met nos priorités, quoi. Mais à l'heure actuelle, en effet, je suis d'accord avec vous, le bio c'est encore connoté bobo, c'est encore connoté bourgeois. Faut que ça change. C'est tout dépend de d'où on met nos priorités. Il faut changer de culture, il faut changer de société. Une carotte bio, c'est plus cher qu'une carotte pas bio. OK. Sauf que vous empoisonnez un peu moins, donc vous avez moins de... Ça contribuera moins à tout ce qui s'accumule dans votre organisme et qui va provoquer des maladies. Deuxièmement, la plupart du temps, les gens qui disent « Moi, j'achète pas bio, c'est trop cher », ils achètent des carottes râpées. Ben oui, mais si vous râpez la carotte, elle coûte 10 fois plus cher qu'une carotte pas râpée. Donc eux, ils achètent des carottes râpées pas bio, mais ils les payent 10 fois plus cher qu'une carotte bio. Alors, cherchez l'erreur. Donc si on met les gens devant leurs contradictions, ils commencent à se dire, ah oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il faut comparer les choses comparables. Une question ?
J'aimerais bien prolonger ce que tu viens de dire, dans le sens que... C'est bien d'avoir un jardin pour faire des choses frais, mais après il faut aussi savoir quoi faire avec. Et pour moi c'est une aberration qu'à l'école on n'apprend plus à faire la cuisine.
Sauf en maternelle.
Ben là c'est un choix politique. C'est-à-dire qu'à l'école maintenant on va presque faire de la géopolitique à la maternelle. De l'économie, c'est vachement important de savoir les marchés, tout ça. Si on écoute les prix Nobel, les spécialistes qui passent à la radio, à la télévision, ils sont tous en train de dire « Ouais, il faut faire ma matière, parce que ma matière, c'est vachement important. » Alors, si le politique a l'oreille un peu tendue, « Ah ben allez, on va introduire telle matière en primaire. » Alors, en primaire, on découvre beaucoup, beaucoup de choses. Faut apprendre à lire, écrire, compter, s'amuser, faire du sport. Faut construire les bases. Et on veut tout faire aux gamins. Alors, la cuisine et le jardin, ça doit faire partie, en effet, des loisirs qu'on peut proposer aux gamins dans les écoles. Mais pas forcément des enseignements. Ça doit être du parascolaire, à mon avis. Après, il peut y avoir des ateliers. Mais quand on fait du centre aéré, par exemple, on fait des jeux, mais pourquoi pas faire du jardin ? Pourquoi pas faire de la cuisine ? Donc, mes gamins ont été dans une école rurale, à plusieurs niveaux. On rentrait parfois tard. Donc, il y avait le maire, pour garder les gamins dans l'école, il a monté une garderie gratuite pour les gens qui mettaient leurs enfants à l'école. Et donc, des fois, nos enfants nous demandaient de rester à la garderie parce qu'ils étaient mieux à la garderie avec leurs copains qu'à la maison à s'ennuyer. Et là, donc, on peut mettre en place des enseignements parascolaires avec des animateurs, faire du jardin, de la cuisine, etc. Mais il ne faut pas tout le temps surcharger les programmes des profs et des instits qui ont déjà largement à faire avec les fondamentaux, quoi. Parce que sinon, oui.
Tu vois ça comme de ton œil de professeur ou de la profession d'enseignant.
Mais j'aurais plus le temps de faire géopolitique en terminale. Enfin.
Non, en fait, quand même, je pense que ce qu'elle soulève est important. Parce que la cuisine, c'est comme les sols. C'est comme nous, ça, on vit pareil. Et je veux dire, c'est quelque chose que c'est une approche qu'on n'a plus dans l'enseignement, qu'on perd dans la culture, parce qu'il y a un éloignement qui est très fort par rapport à la vie, une vie urbaine qui oblige, je veux dire, de quitter une vie plus rurale avec, comme on a ici, la possibilité d'avoir un petit bout de terrain plus facilement et de s'essayer à ce qu'est le sol et la culture des nourritures. Ça y est plus, donc c'est quand même quelque chose qui... Ça rejoint un petit peu ce qui était dit, ou que tu disais tout à l'heure, de l'enseignement sur les enfants d'agriculteurs, notamment, où tu as entièrement raison, et je partage ce que tu as dit. Mais là, on est sur les mêmes butées. C'est-à-dire qu'on est sur des choses où les gens qui sont plutôt citadins ne comprennent plus du tout les fondamentaux de ce que sont les sols, de ce que est la nourriture, et c'est la même chose. Je veux dire, on a les mêmes symbioses, on a les mêmes fonctionnements, on retrouve les bactéries, les champignons, il y en a dans l'estomac, il y en a dans le sol, et on est sur des fonctionnements qui sont équivalents et qui sont les fonctionnements de la vie. Et je veux dire, ces trucs-là, on les apprend pas. Ouais. Je veux dire, ils sont pas enseignés, ils sont pas transmis. Et pourtant, même si on transmet la façon de faire, n'importe quel plat, et pratiquement, ou pas n'importe lequel, mais sur beaucoup, il y a des phénomènes de fermentation, de fonctionnement. Et ça, tout le monde le fait sans le savoir. Comme on utilise les sols, c'est de savoir leur fonctionnement.
Oui. Ouais. Ce qui se passe, ça doit être le cas pour la majorité d'entre vous, si vous êtes là, c'est qu'on a une époque aussi où ce qu'on n'a pas pu écouter à l'école, maintenant, on l'écoute après. On lit des livres, on va beaucoup sur Internet, les plateformes de vidéos nous permettent d'écouter des gens comme vous et moi qui relatent leur expérience, qui donnent des cours gratuitement. Il y a les MOOC aussi, c'est des cours en ligne gratuits qui sont très très bien faits, où on peut apprendre plein de choses. On a la chance adulte de pouvoir, ou jeune adulte, de compléter ce qui nous manque, voilà, de faire des stages aussi. Enfin, le monde est devenu quand même aussi très ouvert. Mais ça répond aussi à une carence énorme, c'est-à-dire qu'en effet, nos enfants sont hors sol. Nos enfants sont cultivés dans des fibres de coco, quoi. Ils grandissent dans des villes où, dans certaines rues, il n'y a pas un seul brin d'herbe. Rien. Il n'y a que du goudron, du béton. C'est propre. Propre, c'est mort, quoi. C'est complètement mort. Alors, sur Paris, depuis quand même plus de 10 ans, même plus que ça, ça doit faire bien 20 ans maintenant, autour des arbres, là, ils laissent pousser tout. Les soi-disant mauvaises herbes. Et pour les Parisiens, ça a été un choc réel. Ils ont vu pousser des plantes qu'ils n'avaient jamais vues ou dont ils ne se souvenaient plus pour les plus vieux. Et quand je parlais d'exemplarité tout à l'heure, eh bien, ça a fait beaucoup de bien. C'est pas grand-chose, mais ça permet aussi de se rendre compte de la complexité des choses. Alors, le jardin à l'école, j'ai testé ça avec mes enfants et ils adoraient. J'ai participé à faire construire aux gamins des jardins hors sol parce qu'il y avait du goudron. Il y avait un petit bout de la cour qui était un peu enclavé. Et j'ai demandé si ça les intéressait qu'on fasse un jardin. Ils m'ont dit, ben oui, allez-y. Alors j'ai amené des planches, des clous, des marteaux. Il y a des gamins à qui j'ai donné des marteaux et des clous. Vous vous rendez compte, j'aurais pu aller en prison, quoi. Et donc ils ont tapé, il n'y en a aucun qui s'est fait mal. Donc on a fait des bacs avec des planches croisées comme ça, enfin des... et donc ils ont fait des jardinières qu'on a remplies de terre. J'aurais demandé d'amener de la terre de chez eux, ils se sont amusés, enfin ils étaient tous très contents d'y participer, à construire et mettre la terre en place. Et ensuite, pendant les récrés, ils se battaient presque pour y aller, pour aller semer des trucs, regarder comment ça poussait, enfin vraiment ils étaient extrêmement intéressés par ça. Et je pense qu'on peut le multiplier dans toutes les écoles, ce genre de choses.
On avait quand même diminué l'espace du terrain de foot dans la cour.
Ah non, on était dans une sorte de quasi le local à poubelle, quoi. Donc bon, on n'a pas empiété sur le foot, non. Oui. Je sais plus qui a levé la main
en
premier.
Des doigts partout. Alors, qui avait levé le premier doigt?
Une phrase.
Oui.
Moi, je reviens sur. Que fait l'enseignement en primaire, je suis justement enseignante en primaire à Médiara. Et aujourd'hui, j'ai ramassé des radis avec
il
mes
était,
élèves.
Il était là, mon jardin, il a disparu.
Ah, peut-être. Et on a fait un gâteau, justement, donc ça revient sur les deux. Moi, je pense que c'est une volonté aussi de l'enseignant d'utiliser justement le potager, la cuisine en classe, etc. Pour enseigner aussi autrement, on peut très bien faire des sciences autres que sur un cahier de sciences. On peut faire des maths autres que sur un fichier de mathématiques. Et c'est ce qui me semble être intéressant. Je pense qu'il y a de plus en plus de collègues qui vont dans ce sens. Moi, c'est la deuxième école dans laquelle je suis, où je mets en place un potager, où j'ai des collègues qui sont super motivés. Sur l'ancienne école, on avait même un poulailler. Et voilà, ça marchait super bien. Voilà. Parce que c'est après à mettre en place.
Et les enfants adorent.
Et les enfants adorent. Voilà. Ils vont arroser, tous les jours ils vont voir un petit potager.
Et contrairement aux idées reçues, les enfants ne sont pas allergiques à la complexité. D'abord, on ne leur dit pas que c'est complexe. Mais ils adorent, comme nous tous, on adore les choses variées, touffues. C'est pas compliqué. Compliqué, ça a une connotation pénible. Alors que complexe, c'est simplement. Voilà, foisonnant, quoi.
Benoît.
Je m'appelle Benoît, je suis agriculteur à Ville-Contal. Je me permets de réagir par rapport à ta présentation, que je trouve un peu caricaturale.
Oui.
Donc, tu parles d'images qui sont fortes, pour peut-être un public qui est militant, tout ça. Tu montres des tracteurs dans des champs, même pas photographiés en France, peut-être même en Ukraine. Comme les chars qu'on a vu ce printemps à Luxembourg avec la Respublika, je ne sais plus comment ça s'appelle, les sols qui se remouillent. Et c'est vrai que sur YouTube, quand on va voir quelques images de tracteurs embourbés, c'est rarement par chez nous qu'on voit ce genre de choses avec des bulles qui sortent des tracteurs et un bulle qui sort un autre bulle qui sort un tracteur. Bon, je trouve que c'est. Donc tu pars de ces images fortes où on voit des tracteurs qui surconsomment tout ça. Et après, bon, tu arrives sur une solution avec le BRF et tout ça, et après, c'était une solution de jardinage.
En fait, oui, mais c'est pour ça que j'ai besoin de vous pour les questions, parce que
et donc,
la caricature, c'est ma façon d'enseigner.
Ouais, mais c'est un peu, admettons que dans la salle, je ne sais pas s'il y a des gens ici qui sont agriculteurs en conventionnel, qui labourent et qui utilisent des pesticides. Alors que moi, c'était un peu le deal au départ que j'amène un voisin en venant à cette réunion qui. Pour essayer de convertir et qu'on ne fasse pas un entre-soi avec des gens qui sont déjà convertis à tout ça. S'il y a quelqu'un qui vient dans la salle, on lui présente ça, mais c'est brut, ça ne va pas l'amener.
Oui, mais Monsanto a été un des promoteurs principaux de la culture sans labour.
Mais le problème aujourd'hui, c'est que là je voulais en revenir, c'est que les gens qui ont arrêté la forêt aujourd'hui, ils mettent un coup de glyphosate et ils font du semi-simplifié, et c'est hyper facile.
Oui.
Et on ne peut pas dire ça ne marche pas, quand on regarde la céréale qui pousse derrière.
En transition, c'est plus simple. Maintenant, faire du semi sous couvert, c'est beaucoup plus technique, beaucoup plus pointu.
Oui,
mais ça veut dire qu'on ne peut pas y passer immédiatement.
Tu n'abordes pas, en fait, le socle ici du fonctionnement, que ce soit en conventionnel ou en bio, des fermes de l'apéro. C'est-à-dire qu'on fonctionne avec des fermes en polyculture élevage. Oui. C'est la vache qui est la vache, le mouton, la brebis, qui est le fer de lance en fait pour restituer au sol la matière organique. Et donc, ça, c'est ça qui nous permet, à condition d'avoir un système à l'équilibre, de nourrir son sol, en fait. Tu l'as abordé pour les humains dans leur jardin, mais nous, c'est un système avec les vaches qui restitue au sol la matière organique qui nous permet, en fait, d'avancer.
Est-ce qu'il n'y a pas d'érosion? Est-ce qu'il n'y a pas d'érosion?
Avec des vaches, je ne vois pas pourquoi la
vache. Si, il y en a. Dans l'Aveyron, c'est un des départements où il y a le
plus d'érosion. Non, mais là, quand tu as une prairie naturelle, je ne vois pas pourquoi il y
aura une prairie naturelle, ok. Alors, sauf si elle est surpâturée.
Oui. Nous, on a un système, il n'y a pas d'érosion.
Voilà, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ne vous coupez pas, mutuellement, la parole. Ici, on parle, on attend jusqu'à ce que la personne a terminé et après, on
Et donc par rapport au gasoil, c'est vrai que tu présentes le labour comme étant consommateur de gasoil et tout ça, mais nous on en consomme du gasoil. Alors, je fauche, je pirouette, j'endaine, je fais des bottes avec un tracteur, et je ne vois pas, et je l'assume. Aujourd'hui on est tous obligés, je dirais même on voit encore Benoît, mon voisin, il pourra en parler parce qu'il est président de Puma, on va plus loin, on utilise des gros tracteurs, on mutualise. C'est-à-dire, on est à 50, 60, on utilise un tracteur de 160 chevaux. C'est comme si ici, pour venir dans la salle, on serait venu avec une voiture, mais qu'on remplit à fond. C'est-à-dire qu'on met, on ne vient pas chacun avec sa voiture personnelle, la voiture, on vient avec un bus, voilà. Et c'est ce qu'on fait en agriculture. Donc le gasoil, à un moment donné, nous, on en a besoin, je ne veux pas faire marche arrière par rapport à tout ça. Et je l'assume, et le fait de capturer en fait, labour gasoil, dans l'Aveyron, tous ont utilisé des tracteurs.
C'est électrique.
Mais après, la solution d'avenir après le gasoil, je sais pas, mais bon... Voilà, c'est ma réflexion.
Imaginons qu'il y ait une guerre pas loin et qu'il y ait des pénuries de carburant. Vous allez bien être obligé de trouver des solutions. C'est pas de la science-fiction que je suis en train de parler là, c'est peut-être ce qui va arriver demain là. Là, les gens qui sont acculés, qui ont des crédits jusque-là, quoi, qui sont à deux doigts de se pendre. Ils font le mieux qu'ils peuvent. Et en plus, ces cons de bobos là, qui leur disent ah, tu pollues, tu bouffes du gasoil, tu pollues. Ok, ça s'appelle agribashing. Le problème, c'est que il faut trouver des solutions, il faut essayer de faire le mieux qu'on peut. Alors, ça, j'entends bien que dans l'Aveyron, les gens, il y en a plein qui font le mieux qu'ils peuvent. Mais il faut trouver des solutions, il faut quand même aller de l'avant, quoi. Il faut arrêter de labourer, ça, c'est clair et net. Si maintenant on ne sait pas faire, il va falloir, dans un avenir plus ou moins proche, trouver des solutions pour arrêter de labourer. Parce qu'on n'aura plus le choix à un moment.
Elle a la parole et puis après, c'est toi. Si tu veux. D'accord. Vas-y, tu dis.
Mais le problème, enfin, n'est pas que le labour, parce qu'on peut. Le gasoil, on l'utilise sur plein d'autres choses que le labour. On peut faire tourner une ferme sans labourer. Faire tourner une ferme sans pétrole, comme il disait, déjà, c'est beaucoup plus compliqué. Et la solution amenée à la fin de l'exposé, qui était le BRF, c'est pas tenable. Même un BRF qui remet un sol en quelques années, un sol mort, c'est moins sûr. Et le BRF pour... c'est pas une solution dans une ferme, mais c'est pas là qu'il faut...
5 cm de BRF, c'est presque pas assez. Ça marche très très bien. 5 cm de BRF par mètre carré, ça fait 50 litres. Si je ne dis pas des conneries, 50 litres. Par hectare, ça fait des quantités mais colossales qu'on est incapable de produire. Mais je suis d'accord. Donc 5 cm, on ne peut pas les amener. Par contre, refaire des structures agroforestières où là, vous avez des rangées d'arbres, il y a des branches qui tombent, il y a des feuilles mortes tous les ans. On l'a vu, ça a été mesuré, ça a été chiffré, la production globale est supérieure à si on avait que du blé ou que des arbres. Ça, c'est une solution, et pas besoin de broyage. Ça, c'est la nature. Quand on laboure ces parcelles-là, on va sectionner les racines superficielles des arbres, et le BRF, il est dans le sol déjà. C'est-à-dire, c'est des branches, c'est des racines broyées. J'avais 3/4 d'heure. Donc, techniquement, c'est un petit peu difficile de nuancer. Et donc, si on veut impacter et qu'on a un temps limité, on est forcément caricatural. C'est justement la différence entre une formation qui durait une année ou deux années ou une semaine de formation intensive et une intervention publique, tout public, en 3/4 d'heure. Et tout à l'heure, alors j'essaie de faire de l'humour, mais on est tous les cons des autres, on est tous caricaturaux, il faut quand même... Et, alors il y a une chose, c'est on ne doit pas culpabiliser les autres parce qu'on est tous coupables. Tous, chacun, on est responsable de tout ce qui arrive. Personne ne peut se dédouaner de tout ce qui nous entoure.
C'est pas facile de dire. C'est quelqu'un qui est venu à vélo qui devient...
Mais exactement. Exactement. Donc, on arrête ce jeu qui est le jeu des gens qui essaient de nous manipuler pour faire du fric. On arrête ça et on va simplement essayer de réfléchir et de tendre vers des solutions qui vont dans le bon sens. Donc je dis à terme, stop la bourre. Donc il y a des pays d'ailleurs, de toute façon, ils ont arrêté bien avant qu'on leur demande parce qu'ils labouraient et toute leur terre était balayée par les vents et se barrait. Donc il y a des endroits, ben, ça c'est Bourguignon qui le dit, et dans, en Amérique du Sud et dans certains endroits, la bourre, ils l'ont arrêté tout simplement pour des raisons techniques. Ici, on peut se permettre de labourer parce qu'on n'a pas des pluies diluviennes trop fréquentes. Mais en 2003, par exemple, j'ai un voisin qui fait du bio juste en dessous de chez moi. On va lui acheter du lait. Il a eu la bonne idée, bon, manque de bol, de labourer une prairie naturelle en 2003. Et qu'est-ce qui est arrivé à l'automne 2003, juste après la canicule? La Méditerranée avait tellement chauffé qu'il y a eu énormément d'évaporation et on a eu des trombes d'eau et Marcilla qui était sous l'eau. Et le champ labouré, il était sur la route. Voilà. Voilà. Il n'aurait pas labouré, ce ne serait pas arrivé. Bon, voilà une caricature, un cas particulier qui va stigmatiser ceci ou cela. Voilà, on veut frapper, mais il faut être conscient qu'on fait tous des erreurs. Même si on part de bons sentiments, de bonne volonté, on est tous co-responsables de ce qui arrive. Donc, on sait qu'on assume toutes les conneries qu'on fait, mais on essaie d'en faire de moins en moins. Et puis surtout, de montrer aux autres qu'on va faire sa part, quoi, chacun sa part. C'est l'histoire du colibri, là. Il faut être un peu plus gros qu'un colibri, quand même. Hein.
Oui. Ouais. Merci.
Je suis maraîcher, je l'avais aussi dit, là, c'est super. Donc, mais voilà, comme c'est la vie, ouais, c'est...
Monte.
Parle plus fort.
Plus fort, ouais.
C'est dans l'idéal, c'est ce qu'il faut faire, c'est sûr. C'est au niveau de l'usage de l'agriculture professionnelle, je dirais, on peut tendre vers ça, mais après, il faut remettre beaucoup de monde dans les champs. Et est-ce que les jeunes, aujourd'hui, ont envie de retourner dans les champs? Faire tout ce travail à mer, alors qu'ils ont grandi dans les années 70, c'était la pleine production. Et là, on va leur demander de refaire ce que faisaient leurs grands-parents, alors que leurs grands-parents, toujours, c'est la misère, ce qu'on dit. Donc il y a encore cette mémoire collective, si on peut dire, de ça. Quoi. Donc, c'est,
Je suis désolé, non,
absolument pas. Je ne suis pas fils d'agriculteur.
Et je ne sais plus ton nom.
Moi ?
Tu es fils d'agriculteur ?
Du tout, non.
Ah, voilà. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé dans les champs ?
Qu'est-ce qui m'a poussé dans les champs ? Déjà, je suis originaire du nord de la France. Donc, dans le nord de la France, quand on veut s'installer paysan, on s'installe sur des surfaces. C'est pas comme ici dans l'Aveyron, quoi. Et donc, je dirais par défaut, je me suis orienté vers des études agricoles pour me rapprocher en fait du monde paysan qui m'intéressait donc, pour faire technicien agricole. C'est un métier que j'ai fait pendant une paire d'années. Et par le contact avec un agriculteur voilà, qui cherchait à céder sa ferme, bon, je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais je me suis retrouvé paysan en lui proposant, avec mon épouse, parce qu'on est à deux sur la ferme, il y a deux UTH, en lui proposant de reprendre sa ferme. Et à l'époque, il y avait un plan d'aide pour les gens qui pouvaient prendre la pré-retraite. Ils pouvaient prendre la pré-retraite en cédant un hors cas de famille. Et donc, ça a été aussi un élément qui a décidé ce propriétaire, donc ce plan d'aide, pour nous céder à nous. Sinon, c'était pas. Donc, à 56 ans, il a pris sa pré-retraite, et à l'époque, ce plan, c'était la DASER qui gérait ça. Ça lui a permis d'avoir le même montant jusqu'à à l'époque, c'était 60 ans pour prendre la retraite. Voilà. C'est comme ça qu'on est arrivé dans le milieu. Au départ, on a commencé en conventionnel. on a fait, on s'est installé en 96 et on a fait la conversion en 2007, avec une conversion très progressive.
Et vous êtes en quoi, en maraîchage?
Non, en Beauvais, avec des vaches laitières. On transforme maintenant, on fait du fromage blanc.
Je ne voulais pas vous faire
une idée. Ça, c'est un petit peu. Il y a du fromage blanc.
Dans l'agriculture biologique, on y est arrivé très progressivement.
Ouais.
On a eu la bourrée, on a fait du maïs, j'ai eu des herbes à maïs.
Oui, mais...
C'est
toujours le problème, le gros problème entre le dire et le faire. Donc, moi, je n'ai fait que dire ce soir. Vous avez fait. Et ça prend du temps. Parce que techniquement, c'est complexe, justement. Et donc, on commence en conventionnel, on fait ce qu'on peut. On essaie de ne pas trop mettre de produits, de faire les choses un peu mieux. Petit à petit, on se pose des questions. Ouais, si je pouvais arrêter ça. Et puis, petit à petit, on se dit, ah, mais ça y est, je suis prêt. Et hop, on bascule. Voilà. Et il y a même des gens qui ont des boulots en ville et qui, à un moment, ils se disent « Bon, mais je vais essayer de devenir maraîcher ou apiculteur. » Et il y en a plein de plus en plus, quoi. Ça fait plaisir, quand même, de voir qu'il y a une prise de conscience, qu'il y a des gens conventionnels qui passent en bio, qu'il y a des gens qui ont des boulots à la con, les bullshit jobs, là, et qui plaquent tout pour essayer de faire un truc à la campagne. C'est pas dit qu'ils y arrivent, hein. Parce que c'est compliqué, pour le coup. Administrativement, techniquement, on s'improvise pas plombier quand on est comptable, on s'improvise pas agriculteur quand on a fait que de l'assurance ou.
Voilà. Il faut voir quand on parle du sol, on hérite du sol du prédécesseur. Si l'exploitation était en bio depuis des années, il y a déjà une bonne partie du travail qui est fait. Il y a une réserve de graines dans le sol qui correspond à ce que le prédécesseur il a fait pendant 50 ans, pendant 60 ans. Quand vous arrivez, c'est pour ça que je parlais de la salle, si on arrive à convaincre un gars qui est un conventionnel, qui a ce sol qui a été entre guillemets maltraité pendant toutes ces années, comment il fait en peu de temps pour le convertir en bio? Il hérite des attentes. Nous, on a hérité des paniques, des setters, des digitaires, toutes ces entre guillemets mauvaises herbes qui sont témoins en fait de la culture du maïs intensif, puisqu'il y en a eu pendant 20 ans, du rhumatisme. Et la question, en fait, elle est presque à donner individuellement à chaque agriculteur, en fonction de son sol, en fonction des précédents qu'il y a eu. C'est très difficile de faire des généralités contre ça. Nous, on a essayé de répondre à une question qui était notre problématique propre. Comment, derrière un maïs qui a sélectionné en fait, un certain type de graines dans votre sol et un certain type de sol, comment derrière gérer le fourrage?
Louis, tu voulais poser une question?
Moi, j'avais juste une petite question très, très terre à terre par rapport à ce que tu nous as montré dans le diaporama. Là. Quand tu parles des serres, par exemple, où il ne faut pas qu'il y ait de virus qui rentre pour ne pas contaminer les plants, où il y a un sas, le gars est décontaminé, comment se fait la pollinisation? D'autant plus quand tu nous as montré des projets d'immenses serres en ville, toutes fermées et tout. Les cultures à l'intérieur, comment elles vont être pollinisées? Alors, à part d'amener des ruches, je ne vois pas.
Oui, il y a dans les serres à tomates, par exemple, il y a des ruchettes de bourdons. Donc on fait de l'élevage intensif de bourdons en milieu artificiel pour ensuite pour faire vibrer. C'est même pas fécondé. Il faut que le plant de tomate vibre à une certaine fréquence pour que le pollen tombe bien. Voilà.
Sinon, il y a des vibreurs électriques
pour les fibres. Ah ouais, ça c'est un Hollandais là. Non, eux, c'est les champions, quoi. Ouais. Champions. Ils font pousser des bananes en Hollande, donc c'est des magiciens du pétrole, quoi. Madame ?
Oui, moi, je voulais revenir pour répondre à la l'école. Oui, à l'école. Je suis de l'ancien temps, on faisait à l'école la cuisine, tout ça. Et après, il y a eu toute une période de ce qu'on appelle les protocoles, traçabilité, on ne peut pas faire des œufs parce que si jamais il y a de salmonellose. Enfin bon, bref, et donc tout ça s'est arrêté. Ouais. Tout d'un coup, on n'a plus pu faire tout ça parce qu'on risquait trop de choses. Et donc moi, je voudrais savoir le passage entre ça, où tout était interdit, et le passage où vous dites que c'est possible. Qu'est-ce que c'est comme miracle? Est-ce que c'est parce que ça vient du directeur, ou je ne sais pas, d'éducation nationale, ou est-ce que c'est des dissidents qui font un petit peu en cachette des gâteaux? Je voudrais savoir comment le passage entre ce qu'on faisait avant, le drame dans lequel on a tous été trempés nos mains, et ce qui se passerait maintenant, où on pourrait faire quelque chose, est-ce qu'on va contre? Ou est-ce qu'on fait en dessous? Ou est-ce qu'on brandit des trucs? Ou est-ce qu'on fait des gâteaux? Je ne sais pas. C'est une question.
Il faut tourner les choses d'une certaine manière. C'est-à-dire que beaucoup de choses dépendent du discours.
Peut-être qu'elle peut répondre au niveau de l'école, les risques oui. qu'elle prend professionnellement.
Normalement, on n'a pas le droit de faire des gâteaux. Voilà. Donc, moi, je passe outre. En effet, l'utilisation des œufs, pendant 4-5 ans, je suis ancienne école où j'étais. Donc, on avait un poulailler. Des fois, on n'utilisait pas les œufs pour faire des gâteaux, ce qui est en soi parce qu'on achetait des œufs, du coup. Donc, c'est les enfants qui repartaient le soir avec des œufs pour chez eux. Mais disons que oui, en effet, moi je passe outre certaines, on va dire, directives. Après, moi je suis la directrice de l'école. Bon, après, voilà. Du moment où tout le monde est d'accord, voilà.
Elle a les épaules là.
Après, oui, non, mais en effet, c'est. Après, dans le jardin, ça, il n'y a aucun souci. Par contre, aller faire du jardin avec les enfants, du potager, voilà. Même les, enfin, je veux dire, ils ont des outils pour aller jardiner. Enfin, moi, je les laisse faire. Sinon, il n'y a pas d'intérêt.
C'est, si je peux juste avant. J'ai parlé de simplification, civilisation de la simplification. Les normes, les procédures, c'est pour simplifier les choses, pour que tout le monde fasse pareil, qu'on soit en sécurité. Et pour appuyer ça, les médias poussent les choses en nous faisant peur de tout. On a peur de tout. Pourquoi ? Il y a une personne au fin fond de la France, là, à tel endroit, qui est morte parce qu'elle s'est étouffée avec une cacahuète, et hop, tout à coup, hop, plus personne n'a le droit d'utiliser une cacahuète. Il faut arrêter, quoi. Donc, après, au niveau individuel, on peut faire une mini-résistance, très bon enfant, en prenant les précautions. Bon, si jamais il y a un oiseau qui chie sur l'œuf et qu'on casse l'œuf et on risque d'avoir une salmonellose, donc on va acheter des œufs dans le commerce, là, on est tranquille. Donc les œufs, les amènent chez eux, ils se débrouillent avec. On essaie de ménager la chèvre, le chou. Et alors, à notre époque, on a quand même... On commence à avoir la culture de la complexité, puisqu'on commence à connaître le microbiote. On commence à savoir que les enfants à la campagne sont moins malades que les enfants en ville, parce qu'ils sont pleins de saleté autour d'eux, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils sont immunisés contre des tas de choses qui n'existent plus en ville. Donc ça commence à rentrer dans les mœurs, et on commence à revenir un petit peu en arrière. Heureusement, quoi.
C'était juste pour citer le cas de l'école de Roussonnac. Donc il y a une cuisinière qui est embauchée par le niveau du primaire et qui fait les repas de l'école. Et donc je pense que ça doit être décidé au niveau de la commune. Quatre fois par an, ils font un repas bio avec les producteurs locaux. Et donc ce matin j'ai été livré. Mais yaourt, il y a la ferme de Tessy qui livre la viande, Guillaume qui livre les légumes. Et donc, nous, en parallèle, une fois par an, quand il y a ce repas bio, on fait une intervention au niveau des élèves, avec les producteurs, pour leur expliquer en fait ce qu'ils ont mangé, en quoi ça consistait, et c'est gagné, notre façon de travailler. Et elle me disait ce matin, on est à 3,40 € du repas, et elle le lisse, c'est-à-dire que le repas bio, forcément, il coûte plus cher, mais elle. Elle lisse tous les repas pour avoir un prix égal. Et par contre, bon, moi je fais 37 km pour aller livrer ces quelques repas. Ouais. Et à 1 km de chez moi, il y a l'école du village. Et là par contre, c'est Martel. Là, c'est des volontés communales, mais la preuve, rapprochez-vous de ce qui se fait à Roussonnac, ça existe. Il y a moyen d'avoir une cuisinière qui vous prépare les repas et qui de temps en temps vous fait un repas.
Autre question ? Autre témoignage ? Oui,
je suis juste intervenir un petit peu par rapport à ton intervention et revenir un petit peu sur les sols, parce que tu as donné tout l'aspect politique et autour de la déclinaison. Mais globalement, je voudrais revenir sur l'importance, il me semble que ça ne transparaît pas assez dans ce que tu as dit, même si ça y était. L'importance du sol globalement par rapport à la vie, je veux dire, je pense que moi je le dis assez souvent quand je reçois des classes pour leur expliquer ce que c'est que bio et des sols, c'est en fait, on a grosso modo 30 ou 40 cm, 50 dans le meilleur des cas, d'épaisseur, en fait, sans quoi la vie sur Terre est impossible. Je veux dire, c'est dérisoire, mais c'est hyper important. Et s'il n'y a pas ce sol et ses fonctionnements, ce fonctionnement du sol, cette diversité qui permet la vie, les plantes ne peuvent pas pousser, voilà. Et ça tient à 30 cm d'un écosystème, je veux dire animal, végétal, des symbioses à l'infini, t'en as donné un petit peu la teneur, mais c'est fabuleux quand on rentre dans le détail, et en même temps, en connaissance biologique, aujourd'hui, on n'en connaît que dalle. C'est-à-dire, ce qu'on connaît, c'est une misère. D'une part, parce qu'il y a très peu de recherches fondamentales là-dessus, sur la biologie des sols.
C'est politique, ça.
Alors, politique, oui, mais pour cause aussi, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est quand même se rendre compte, c'est que la recherche, ce qu'on appelle la recherche globalement dans le monde, je veux dire, 95% de la recherche, c'est du financement privé. C'est des entreprises qui vont payer des chercheurs pour un résultat qu'elles vont pouvoir breveter et vendre. On est d'accord. La recherche se passe comme ça. La recherche est fondamentale pour juste savoir. Je veux dire, aujourd'hui, alors, en agriculture, c'est à peine 10% du budget des recherches globales, ce qui a été estimé, parce que c'est très difficile de savoir ce qui est exactement donné dans la recherche privée, mais dans la recherche publique, c'est pas énorme. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, les fonds sont très bas. Et donc, pour en revenir à ce que je disais, on ne connaît très peu de choses aujourd'hui, pour cette raison-là, et pour une autre raison historique, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que depuis un siècle, globalement, on a fait des progrès, notamment dans la chimie et la physique, c'est deux domaines de recherche qui avaient été bien plus développés, et les applications de ces résultats de recherche ont été appliqués à l'agriculture et ont orienté complètement le fonctionnement de l'agriculture. Donc on a laissé de côté la biologie des sols. Ça n'a pas été pendant un siècle. On commence juste à y revenir. Pendant un siècle, ça n'a quasiment pas été. Les quelques-uns qui ont travaillé là-dessus, agronomes ou autres, je veux dire, ça a été des parias de l'agriculture, enfin de la recherche, de l'agriculture. Enfin, c'est des gens qui étaient hors chemin. Et donc, aujourd'hui, la biologie des sols, là-dessus, on a très, 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 très peu avancé. Biologie qui est plus complexe que ça, parce qu'elle est très liée aux phénomènes de chimie et physique dans les sols, qui sont hyper importants. Et donc, pour en revenir à ça, on est juste sur quelques centimètres de terre. Essayez d'imaginer un peu la chose. Par rapport à la surface de la Terre, à la population qu'on est, c'est énorme. Il y a plus de masse végétale et animale dans ces 30 cm de sol au-dessus. Je veux dire, ça, quand on dit ça, déjà, c'est hyper complexe. Voilà, donc,
Marcel Boucher. Marcel Boucher. Tu vois qui c'est? Marcel Boucher, c'est un monsieur, je ne sais pas s'il est encore vivant, mais qui a travaillé toute sa vie sur les vers de terre. C'est le spécialiste mondial du vers de terre. Il est français. Il a fait des conférences assez passionnantes. Et justement, il explique bien. Je commence à lire un de ses bouquins qui est assez trapu. La biomasse animale la plus importante, c'est les vers de terre. De loin, devant tout le reste. Quoi.
Ben aujourd'hui, sur un terrain qui fonctionne, voilà, pour donner un ordre d'idée, on est à 3-4 tonnes de vers de terre hectare. Vous ne nourrirez jamais 3 ou 4 tonnes d'animaux qui vont manger des végétaux qui sont dessus. Hein. C'est impossible.
Plus que le réchauffement climatique accélère la décomposition du virus. On est vraiment dans ce cercle qui commence à devenir infernal. Et si on ne fait pas quelque chose pour la terre, pour le sol vivant, on va se retrouver sans sol.
Tout y est. Moi, j'ai vu un jour des vers de terre qui avaient eu du glyphosate. C'est dégueulasse, c'est des petits machins violets, comme ça, tout petits. Et après, quelqu'un a dit, mais j'en ai pas mis, mais j'ai dit, mais t'as vu le ver de terre? Ça fait des petits trucs comme ça, violets. Ah, c'est affreux.
C'est comme sur les paquets de cigarettes.
J'ai une question très concrète par rapport à l'île. Parce que du coup, nous, ça nous arrive aussi d'utiliser l'urine pour arroser. Mais bon, de ce que j'avais lu, nous, attention, on la collecte à un certain moment et on fait attention qu'il n'y ait pas d'ammoniac qui se développe pour ensuite, et puis on l'a dilué à 10% sur le arrosage. Et donc, je me demandais avec ce système de collecte, et j'ai déjà entendu quelqu'un qui avait directement des toilettes à séparation, des toilettes sèches à séparation, où l'urine partait dans une cuve. Et comment on gère du coup la conservation de l'urine pour pas que ça tourne en ammoniaque?
Il faut pas prendre le pilule
ou est-ce que c'est pas.
Ça, il suffit de 24 heures. En 24 heures, ça tourne en ammoniaque. Quoi. Et. L'idéal, ce serait d'utiliser tout de suite. Quoi. Ça serait l'idéal.
Mais. Pisser la reçoit et remplir la reçoit.
Après, l'idéal, c'est d'uriner sur de la. Il y a une station d'épuration qui est expérimentale, qui tourne depuis pas mal d'années. C'est vers Montpellier, je ne me rappelle plus la commune. Donc, vu qu'il fallait comparer, ils ont fait la station d'épuration classique et à côté, un mètre d'épaisseur de sciure avec des vers de terre dedans et ils arrosent avec les eaux. Les eaux vannes, c'est-à-dire le caca, le pipi, tout le bazar, et la pilule, et les antibiotiques, et tout ce qui va dans le. Et donc, ça marche super bien. C'est-à-dire que la qualité de l'eau qui sort de ce substrat fait de sciure et de vers de terre, la qualité de l'eau qui sort, elle est bien meilleure que celle qui sort des cuves classiques de station d'épuration. Dans une station d'épuration, on va d'abord faire travailler les bactéries aérobies. C'est-à-dire que c'est en présence d'oxygène que la transformation, le brûlage des déchets se fait le plus rapidement. Donc c'est, là, vous voyez des espèces de grandes citernes rondes avec de l'ébullition, c'est pour aérer. Plus on aère, plus ça brûle la matière. Donc les bactéries respirent, voilà. Si ça fermente, par contre, la matière, elle se fossilise, enfin, et on a des bouts de stations d'épuration. Et on ne sait pas quoi en faire. Alors les vers de terre, eux, ils bouffent tout. Alors, c'est pas le caca qui mange. Les vers de terre, c'est comme les baleines. Enfin, c'est pas comme les baleines. Les vers de terre sont microphages. Ils mangent des microbes. Ils mangent des microbes. Et donc, ces microbes, les matières fécales, l'urine, vont dans la sciure de bois. La sciure de bois, c'est du carbone, essentiellement du carbone. Il n'y a pratiquement pas d'azote. Et donc, quand on met de l'urine sur ce bois, eh bien, on retrouve un bon équilibre entre carbone et azote. Et là, il y a des bactéries et des champignons. Ils ont tout ce qu'il leur faut. Et ils commencent à digérer ce bois. Et donc, ensuite, les vers de terre vont manger ces bestioles. Ils les broutent. Et tout en aérant le substrat. En permettant donc au liquide de rentrer. En permettant. Donc, en fait, on recrée artificiellement le fonctionnement d'un sol. Sauf que c'est de la sciure pure. Voilà. Donc, c'est pour dire. Alors, donc. Quand j'utilise mon urine, j'ai les bouteilles qui traînent un peu trop, ça sent l'ammoniac. C'est-à-dire l'ammoniac, c'est facile, c'est l'odeur du poisson. Le poisson bien fait ou la crevette. Quoi. Les poissons ne font pas pipi comme nous, les poissons ils fabriquent de l'ammoniac directement. C'est pour ça que ça a cette odeur. Alors l'ammoniac en soi, est-ce que c'est mauvais? Le seul problème de l'ammoniac, c'est que ça existe sous forme d'ion dans l'eau, mais ça existe aussi sous forme gazeuse. C'est pour ça qu'on le sent fort. Et donc, le problème, c'est que si l'urine est transformée en ammoniac, qu'on le voit sur les fumiers, par exemple, il y a plein d'azote qui repart directement dans l'atmosphère. C'est ça, le problème. Alors, quoi dire? Faut trouver les pratiques les meilleures, mais c'est mieux que rien.
Mais le seul problème, c'est que du coup, ce serait qu'on perde un peu d'azote.
Comment ?
Le seul problème à stocker l'urine et qu'elle fasse de l'ammoniac, ce serait de perdre un peu d'azote. Oui. Pas d'avoir un produit qui est polluant après. S'il y a de...
Ah non, non, mais alors, je ne sais pas, les arbres auraient tendance à mieux utiliser l'ammoniac et les plantes annuelles plutôt les nitrates. Alors, c'est peut-être plus compliqué que ça. Ça voudrait plutôt dire que les champignons associés aux arbres, eux, récupèrent l'ammoniac. Enfin, c'est complexe. L'idéal, c'est de faire pipi directement sur les plantes. Mais il faut faire un peu là. Donc...
Mais même si tu fais pipi directement, je veux dire, le cycle de l'azote, il est ce qu'il est, et il ne peut pas être sans perte. Oui. C'est impossible. Voilà. Je veux dire, le cycle de l'azote, on a obligatoirement de l'azote qui va revenir à l'atmosphère, qui va être lessivé aussi dans les eaux. La question, c'est que ce soit au mieux utilisé par la plante, et à minima évaporé au niveau de l'air ou du sol. Mais de toute manière, il y aura un cycle de l'azote permanent qui va faire que la zéro, ne pas avoir de perte, reste une mission absolument impossible. Que ce soit par les fumiers, que ce soit par tous les. Même par de la matière organique que vous allez laisser fermenter sur un compost. Elle va obligatoirement former une émission d'ammoniac qui va pouvoir repartir dans l'air. Je veux dire, c'est obligé. Après, la question, c'est d'en garder le maximum sur tout ce qui est d'éjection, en fait, le principe, en utilisant les fermentations avec des micro-organismes qui, eux, sont capables d'en garder le maximum dans le sol ou sur un tas qu'on va épandre dans le sol.
Oublie la paille, justement.
Oui, la paille en fait partie. C'est-à-dire que quand on veut faire une fermentation, c'est la nourriture du sol, c'est ce que tu as dit dans ton exposé. La nourriture du sol, en fait, c'est le carbone, quoi. Je veux dire, si on apporte du carbone, des pailles, bon, tu as parlé du bois réel fragmenté,
du carton,
n'importe quelle source de carbone va pouvoir fabriquer de l'humus. S'associer avec les argiles du sol pour justement maintenir le sol, l'empêcher de se lessiver et de lessiver les éléments. Mais quand on parle du cycle de l'azote, c'est hyper complexe. C'est pas une chose qui se pose à côté des autres. Tout fonctionne en relation avec... et le meilleur stockage, globalement, si on veut le faire, c'est que ce soit les micro-organismes du sol ou du compost qui vont se développer et stocker l'azote sous une forme qui n'est pas lessivable dans le sol, mais qui va le redevenir quand d'autres bactéries vont pouvoir le transformer pour le donner à la plante.
Dans la nature, les animaux, ils ne vont pas concentrer leur urine tout au même endroit. C'est nous qui avons inventé ça, quoi. Les animaux concentrés dans des bâtiments... l'horreur absolue, c'est le lisier, quoi. Parce que là, on n'a même plus de carbone pour tamponner une partie, absorber une partie de l'azote. C'est l'azote pur. Ça, vous avez vu les lisiers de porc, il y a des lisiers de vache aussi, hein, je crois qu'on le fait. Oui. Et tout ça parce que maintenant, on découple de plus en plus les cultures. Il y a des gens qui font du porc hors sol. Ils ont des porcs, les porcs, ou même les vaches. J'ai un voisin pas loin, ces vaches ne voient jamais un brin d'herbe verte. Elles sont en stabu tout le temps. Il n'y a pas de paille. Donc.
Est-ce qu'il y aurait d'autres interventions?
On sait maintenant l'importance des vers de terre, mais j'avais entendu il y a quelques années qu'il y avait un vers Obama qui est prédaté sur les vers de terre. Et apparemment, il était dans le sud-ouest de la France, il s'étendait. Donc, même si on arrive à avoir beaucoup de vers de terre, on est, il y aura ce vers prédateur qui va gagner du terrain comme le frelon asiatique. Donc, est-ce qu'il y a une solution miracle pour arrêter ce prédateur?
Les plantes envahissantes, les animaux envahissants, ils viennent d'ailleurs, dans des endroits où ils ont leurs propres prédateurs et où ils cohabitent avec des animaux qui ont appris à cohabiter avec eux. Et donc, deux solutions, soit nos animaux apprennent à cohabiter avec ces prédateurs, ces nouvelles maladies. Soit on fait venir des mêmes endroits les prédateurs de ces animaux, mais sans anticiper tout ce qui pourrait avoir comme retombée. C'est complexe. Donc ça, c'est toute l'histoire de la mondialisation, qui n'est pas qu'une mondialisation de l'argent, des matières, c'est aussi une mondialisation des maladies. On l'a vu avec le Covid, avec les pestes végétales et compagnie. Après, il y a une chose que vous pouvez arrêter totalement de dire, c'est que la planète ne va pas s'en remettre. La planète, elle s'en fout complètement qu'on détruise notre biotope. Parce qu'une fois qu'on sera mort, la planète, elle va tout à fait refabriquer de la vie, des sols, etc. Elle, le temps, elle s'en fout. Et puis, ça, elle n'a pas un cerveau, la planète. Donc, l'histoire de la planète, non, c'est notre biotope, puisque nous sommes les animaux à l'intérieur de ce biotope, et on est en train de détruire ce biotope. Voilà. Alors, je ne serais pas là si je n'étais pas un peu optimiste. Nous pouvons faire des choses. Et même quand on sera dans la mouise jusqu'au cou, on pourra continuer à faire des choses qui vont permettre de survivre dans des conditions pas trop atroces. L'homme a toujours participé fait partie de la nature. Si on regarde la Gaule, c'était la Gaule chevelue, il y a des chênes partout jusqu'au bord de la Méditerranée, où là c'était plutôt des pins. Autour de Millau, au temps des Romains, il y avait des forêts partout. Les Romains sont arrivés, l'agrofaisin, qu'ils ont fait des poteries, ils sont allés chercher le bois de plus en plus loin, et puis ils ont fait l'Écosse toute pelée qu'on voit maintenant. L'homme a eu une influence sur son environnement. L'homme est donc une catastrophe, tout comme la foudre, tout comme les inondations, tout comme les tsunamis des volcans. Nous sommes une catastrophe. Si on est une catastrophe mesurée, nous faisons partie de la biodiversité et de ce qui permet de créer de la diversité. Donc, je pars de la gauche. Avant que l'homme soit sur la Gaule, c'était que des arbres, en gros. L'homme arrive, il commence à faire des clairières, il commence à créer des pâtures pour les moutons. Donc, il a créé des biotopes. Il a participé à diversifier les biotopes en France. Et à une époque, l'homme a eu un impact positif sur la vie, sur la biodiversité. L'homme a participé à créer des espèces nouvelles. Même ces espèces domestiques, on pourrait dire, mais peut-être qu'on a créé de nouvelles choses aussi. À une époque, quand nos ancêtres ont bâti patiemment sur des collines pentues, ils ont fait des terrasses, ils ont créé de nouveaux biotopes. Ils ont permis à la vie de s'installer de manière plus prolifique sur des zones qui étaient très, très austères, quoi. Ils ne poussaient que des mousses et des fougères. Et ils ont fait des petits murets, puis il y a eu de la vigne. Et dans la vigne, il y avait de la mâche, il y avait de la réponse. Il y avait... si on prend conscience de la complexité... Et on est en train de le faire. On parle de microbiote, on parle maintenant... les agriculteurs passionnés commencent à nous faire des romans sur le sol. Donc on voit qu'il y a une prise de conscience. Est-ce qu'il y en a suffisamment pour que ça change vraiment les choses?
Les étudiants d'AgroParisTech qui se sont un petit peu...
Oui, les choses bougent. À l'échelle d'une vie ou d'une demi-vie, on a l'impression que ça ne bouge pas, mais moi j'ai l'impression que ça bouge. C'est ça, le côté optimiste. Après, le côté pessimiste, vous êtes... voilà, quoi. On ne serait pas là, quoi. Si on était pessimiste, on ne serait pas là. Il y a des solutions, les choses vont dans le bon sens, une prise de conscience. Je répète encore, on ne doit pas culpabiliser qui que ce soit. Par contre, il faut être exemplaire et essayer de dire, regardez, moi je fais comme ça. C'est mieux, non? Franchement. Faites comme moi, quoi. Moi, j'arrête de labourer, regardez, c'est mieux. Alors, c'est difficile, certes, mais je vais t'expliquer. On va essayer de trouver des solutions. On s'entraide, on se serre les coudes.
Ton prénom, c'est pas Alexandre le Bienheureux. Juste, puisque très vous court. Avez levé depuis un moment le doigt, votre question, et après, c'est pas rare, quand même.
Les toilettes sèches, on les laisse combien de temps? On utilise tout de suite.
Alors les toilettes sèches, c'est comme l'urine. Si on peut faire une concentration, dans ce cas-là, il faut composter longtemps. La législation maintenant autorise à avoir des toilettes sèches. Et il faut donc, comme pour le fumier dans les fermes, il faut une surface étanche pour éviter que les jus s'infiltrent dans la nappe phréatique. Voilà. Ou bien, on fait des trous dans le jardin et puis on va, par petits paquets, enterrer sous très peu de terre les toilettes. Donc vos arbres, ils vont adorer. La rhubarbe est belle sous les toilettes sèches, etc.
Parce que nous, on la laisse 2 ans.
Oui. Alors, parce qu'on vous a foutu la trouille. Il y a les médicaments, il y a les salmonelles, il y a les bactéries pathogènes, il y a les ceci, il y a les cela. On nous fait peur, on passe le temps à nous faire peur, mais ça a toujours existé.
C'est trop long, 2 ans.
Bah, c'est... Oui.
Un an ?
Oui. Parce que vous prenez n'importe quelle matière organique, vous faites un tas comme ça, plus vous attendez, plus le tas diminue. C'est-à-dire que le tas se transforme en eau, en gaz carbonique, en chaleur. Il reste, et plus vous attendez, plus le tas va diminuer. Et ce qui reste, c'est il n'y a plus rien à manger pour les plantes, ni pour les champignons, il n'y a plus rien. L'idéal, ce serait de tout restituer directement au sol, comme ça s'est toujours fait, quoi. Donc quand vous faites des toilettes sèches, l'idéal, ce serait de les répandre sous du carton, des feuilles mortes, du BRF, vous les planquez, vous les enterrez à peine à des endroits où vous n'allez pas marcher dessus, bien sûr. Mais c'est que du bon sens, quoi. Il faut essayer, faut arrêter de vouloir tout concentrer, tout confiner, tout. Notre problème, c'est ça, c'est de concentrer. On met tout au même endroit, on met tous les êtres humains dans les villes, on met toute la merde dans la fosse septique, on disperse. Si on a suffisamment d'espace dans son jardin, on n'a peut-être pas besoin de faire des gros tas de compost. Voilà.
Bon.
Bon.
Merci. Merci bien. Merci Joël. Merci à tout le monde.